Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour moi.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai pour habitude involontaire de visualiser les expressions que j'entends. C'est parfois un peu pénible quand quelqu'un dit qu'il pèse ses mots, par exemple, je vois une balance et les lettres de chaque mot que l'on pose sur la balance une par une. Même chose quand on me propose de déjeuner sur le pouce. S'agit-il de faire le poirier sur un seul doigt tout en se restaurant ou de disposer son repas sur un pouce ? Je sais, c'est ridicule, je visualise. Et il est une expression en particulier qui me déconcerte. Toute honte bue. Mais pourquoi diable la honte se boirait-elle ? Et peut-on l'avaler tout entier, cul sec ? Ne reste-t-il pas toujours quelques gouttes de honte au fond de la bouteille ? La honte, voilà un sujet qui peut sembler très intime, mais il est aussi collectif. Car la honte se construit sur le regard des autres. Alors quelles sont les multiples facettes de la honte? Comment la surmonter? Comment la dompter? Serait-elle à certains égards une bonne chose? Parce qu'elle est une première marche vers l'affirmation de soi. La honte devient fierté lorsque des insultes sont employées par ceux et celles qui en sont victimes. Comme un étendard, elle devient un bouclier. Mais je ne m'explique pas toujours pourquoi elle se boirait. C'est parti, de quoi avons-nous honte ?
Dorothée Barba, sur France Inter.
Avec trois invités en direct dans ce studio, bonjour Mathieu Simonet.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue, vous êtes écrivain et c'est vous qui nous avez donné l'idée de cette émission sur la honte. Parce que vous publiez ces derniers temps des récits de honte sur les réseaux sociaux. Vous avez demandé à des lycéens et lycéennes de quoi ils avaient honte. Tous vous ont répondu sur des petits papiers que vous avez gardés précieusement. On va en parler bien sûr. Alors peut-elle se boire, à votre avis, la honte ?
Mais je n'avais jamais pensé au fait que la honte pouvait se boire, mais je pense que la honte fait sans doute partie de notre ADN. Donc peut-être que quand on boit quelque chose, ça m'évoque le fait que ça s'intègre à notre corps.
Ça s'intègre. Anne-Sarah K, c'est le titre du roman que vous avez publié en 2019 au Seuil, Mathieu Simonet. Il raconte votre amitié avec Anne-Sarah Kertudo, qui est avec nous également. Bonjour Anne-Sarah Kertudo.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes juriste, directrice de l'association Droit Pluriel, qui est une association qui se bat pour que la justice soit accessible aux personnes en situation de handicap. Vous avez notamment réalisé un documentaire diffusé sur France 5 intitulé « Parents à part entière », documentaire qui montrait des parents aveugles qui peinent parfois à obtenir la garde de leur enfant en cas de séparation. Vous êtes vous-même aveugle, Anne-Sarah Kertudo. Vous avez publié il y a quelques années « Est-ce qu'on entend la mère à Paris ?» édition de l'Harmattan. Et ce mot « honte », il est au cœur de vos réflexions depuis longtemps. Mathieu Simonet, d'ailleurs, vous a consacré un documentaire. Depuis quand vous connaissez-vous tous les deux d'abord, Anne-Sarah Kertudo ?
On s'est rencontrés au collège en sixième. Mmh. Donc là, on ne va pas dire notre âge, mais ça fait quelques années déjà. Ça fait 35 ans, c'est ça ? Mmh.
Diriez-vous que la honte est au cœur de votre relation depuis le départ ?
De notre relation à tous les deux,
Kertudo, oui.
Elle est un lien, en tout cas, entre nous, ouais. Mm. Elle est pas, on a plein d'autres choses, mais elle est un lien, ouais, bien sûr.
De quoi aviez-vous honte, Anne-Sarah Kertudo?
Au passé, au présent, je sais, en tout cas, moi je travaille autour de la question du handicap. J'ai découvert ce sujet-là à travers ma propre expérience, et j'ai découvert la honte aussi à travers ce sujet-là. Donc j'avais honte de ma différence, j'avais honte d'avoir des yeux qui n'étaient pas de la même forme que tout le monde. J'ai eu honte ensuite parce que j'ai perdu l'audition et que je répondais à côté, je savais pas comment faire pour que ça se voit pas. Je voulais surtout que ça se voit pas, je voulais surtout être normale. Donc j'avais honte de pas être comme les autres.
Diriez-vous que vous l'avez surmontée aujourd'hui ou apprivoisée, cette honte ?
En tout cas, j'en ai fait quelque chose. C'est déjà quelque chose de bien. J'en ai fait un combat et je pense qu'elle est toujours là et qu'elle est devenue un moteur.
Bonjour Brigitte Karcher.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes psychologue, maîtresse de conférences en psychologie clinique et en psychopathologie à l'université Nice Côte d'Azur. Vous avez consacré votre thèse à la honte dans le cas particulier des troubles alimentaires. Sujet intime et collectif, disais-je, la honte parfois se voit. Peut-on identifier des symptômes universels, Brigitte Karcher, des manifestations physiques qui seraient les mêmes pour tout le monde ?
Oui, concernant la honte, ce qui me semble important pour parler de la honte, c'est de voir que c'est un affect. Mmh. Et dans ce sens-là, c'est entre soma et psyché, et ça vient affecter le corps. Et ça passe par des signes comme le rougissement, la sudation, les sensations de chaleur. Et c'est dans ce sens-là, finalement, que ça va interpeller le regard de l'autre. Et c'est là qu'on voit la dimension sociale, finalement, de la honte.
On va parler ce matin, jusqu'à 10h, des petites hontes quotidiennes comme des grandes hontes, si j'ose dire, la honte du handicap, la honte de l'orientation sexuelle, la honte sociale parfois. Est-ce que vous diriez que ce sont les mêmes? Est-ce qu'il y a un lien au-delà de ce mot de honte qui les regroupe? Est-ce que c'est quelque chose de similaire?
Je sais pas, le ressenti de la honte, il est différent pour chacun, il est propre à chacun. Après, oui, il y a des hontes qu'on peut relier à des traumas de vie ou des traumas infantiles qui ont une origine commune, disons.
Un affect qui serait semblable.
Oui.
J'attends les témoignages et réflexions des auditeurs et auditrices. Non, mais vous n'avez pas honte. Écrivez-nous sur le site de France Inter, sur l'application France Inter, ou appelez le standard 01 45 24 7000. Proposez-nous, tenez par exemple, des synonymes de honte. Vous le savez, on aime observer les mots à la loupe dans cette émission.
Je suis jamais à l'aise dans les cocktails, la foule des villes à gravité. La musique m'emmène loin du bordel, le feu de Johnny Hallyday. Rien ne serait pareil sans toi, pourquoi t'as peur que je t'oublie? Je pourrais croiser des centaines d'entre elles, les yeux bandés, je t'en trouverai quand même. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut t'arriver, tout peut t'arriver. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Juste au cas où, si t'étais seul, t'aurais dû m'appeler. Tout peut t'arriver, les rien, les graves. Tout peut t'arriver. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable serait comblé. Sentiment étrange, c'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. J'arrive pas à descendre, le stress m'étrangle. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. Et le diable serait comblé. Sentiment étrange, c'est comme si on dispersait mes cendres. Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber. La fin de la prophétie se complète. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut t'arriver, tout peut t'arriver. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter? Tout peut t'arriver.
TPA, c'était Roméo Elvis.
France Inter, l'été comme jamais.
De quoi avons-nous honte? Nous interrogeons la honte ce matin avec l'écrivain Mathieu Simonet, avec Anne-Sara Kertudo qui est juriste et militante pour les droits des personnes porteuses de handicap, et avec la psychologue Brigitte Karcher. Comment commencer sur ce si vaste sujet? Peut-être par cette phrase qui est très contemporaine, cette tournure qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux. On dit de quelqu'un qui commet quelque chose d'odieux qu'il est né avant la honte. Comme si la honte avait une date de début, Mathieu Simonet.
Je pense effectivement que là, on a souvent honte pour une histoire personnelle et dont on ne devrait pas avoir honte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette généalogie entre notre histoire personnelle et la honte. Et de temps en temps, les autres ne comprennent même pas pourquoi on a honte de cela. Et donc effectivement, tout remettre en perspective et donc utiliser le récit, ça permet sans doute de dépasser la honte ou en tout cas de la domestiquer.
Être né avant la honte, la trouvez-vous révélatrice de quelque chose, cette expression, Brigitte Karcher? Elle apparaît un jour chez l'enfant, en général, la honte. Le bébé n'a jamais honte.
Justement, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Alain Ferrand et Albert Chicone vont parler des origines de la honte chez le bébé qui relie à l'estime de soi du bébé. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, effectivement, dans le développement de l'humain, on passe par une période de honte, en fait. Et ça fait partie du développement normal, de la structuration. Et en fait, ce moment-là, ça va se passer, la honte primaire, ça va se passer au moment où l'enfant se différencie de la mère. Et de la mère ou de la personne qui s'occupe de l'enfant petit. Hein. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir ce phénomène de honte. Donc ça vient vraiment signer l'entrée dans la civilisation humaine. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, il naît physiquement, mais en fait, psychiquement, on parle de la dyade mère-enfant. Mmh. Et c'est au moment où il y a cette première différenciation qu'il y a le premier signe de honte.
Donc ce serait une honte qui peut structurer l'individu, le faire réaliser qu'il y a des gens autour de lui, tout simplement. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Brigitte Karcher, que la honte a du bon ?
Bien sûr, bien sûr. Moi, je milite vraiment pour qu'on puisse reconnaître la honte comme un affect positif. Et notamment sur le fait que ça protège l'individu.
Voilà qui doit vous faire réagir, Anne-Sara Kertudo.
Ah oui, moi je suis pas du tout une militante de la honte. Pour moi, je le vis absolument comme un facteur d'empêchement. Après, ce que vous avez dit là, si j'ai une petite honte ce matin, c'est que je connais aucune des expressions que
c'est
vous
vrai
avez citées sur
être la honte. Ouais.
Mais la seule que je connais et qui me parle beaucoup, c'est et on en a particulièrement parlé au moment de MeToo, c'est la honte qui doit changer de camp. Mm-hmm. Et en fait, moi, je trouve qu'elle est très très forte et très parlante, cette expression, parce que justement, moi, j'ai jamais eu honte parce que j'ai grandi à la campagne avec des enfants avec qui on s'est connus depuis tout petit. Et donc, jusqu'à mes 10 ans, j'ai jamais eu honte de ce que j'étais. Et c'est quand j'ai changé d'école que j'ai abouti à Paris et que j'ai commencé à avoir des réflexions dans la cour d'école qu'est née la honte. Et donc la honte, elle est vraiment venue du regard des autres.
Donc quand on a commencé à se moquer de votre handicap,
ouais,
est arrivée la honte.
Ouais. Et je trouve que du coup, ça m'a donné honte de ce que j'étais moi, alors qu'en fait, la honte, elle n'était pas en moi et elle est devenue un facteur d'empêchement profond et de ça m'a gêné pour énormément de choses. Et le fait que cette expression de la honte qui doit changer de camp, c'est vraiment effectivement le comprendre que c'est dans le regard des autres, en fait, que quel problème. C'est-à-dire qu'on regarde des gens et qu'on leur fasse honte de ce qu'ils sont, c'est ça le problème.
Mathieu Simonet, vous écrivez ceci dans votre livre intitulé Anne Saraka. Le sentiment de honte qui m'a longtemps accompagnée n'est probablement pas étranger à ma relation avec elle. Expliquez-nous cela, s'il vous plaît.
À ma relation avec elle, le début de notre amitié avec Anne-Sara, c'est le jour où on s'est rendu compte. Je lui ai proposé d'aller voir une pièce de théâtre que j'avais mis en scène, et elle m'a dit qu'elle n'entendait pas, et c'était la première fois qu'elle disait qu'elle n'entendait pas. Et tout d'un coup, elle m'a paru intéressante à mes yeux, parce que je me suis dit, elle est différente, elle est singulière, elle n'est pas comme les autres.
Et vous vous sentiez vous-même
différent? Et moi j'avais honte parce qu'on était dans un lycée du 16e et mes parents n'avaient pas d'argent.
À Paris.
Mmh. Et deuxièmement, j'étais gay, j'assumais pas d'être gay. Et donc on a vraiment fait avec Anne-Sara notre coming out ensemble, puisque on est allé à la Gay Pride pour la première fois, elle avec des appareils auditifs. Et par rapport à ce que disait Anne-Sara tout à l'heure, je comprenais pas très bien à l'époque pourquoi on pouvait être fier d'être gay, pourquoi la Gay Pride. Et j'ai compris qu'être fier, c'est ne plus avoir honte. Et pour la première fois dans l'espace public lors de la Gay Pride, j'ai compris que je n'avais plus honte d'être gay. Donc c'était vraiment l'histoire du changement de camp dont parlait Anne-Sara tout à l'heure.
Peut-on être fier d'un handicap, Anne-Sara Kertudo?
Bah, on peut être fier de ce qu'on est et tous les corps sont à égalité, tous les corps se valent. Donc être fier, c'est se libérer de la honte. Donc moi, je suis pas spécialement fière d'être aveugle ou d'être malentendante. C'est
je suis fière de ce que je suis parce que j'ai gagné ma place, je me suis battue, je me bats encore parce que j'en ai fait un combat politique, parce qu'on a des choses à dire, à faire valoir, toutes les personnes qui se battent pour l'égalité des droits. Et ça me semble intéressant, être fière de ma différence, ça me parle moins peut-être.
Mathieu Simonet, vous êtes venu ce matin en studio avec plein de petites enveloppes qui sont disposées sur la table devant vous. Qu'y a-t-il à l'intérieur ?
Alors, il y a des bristoles, et sur ces bristoles, j'ai demandé il y a 2 ans à 300 lycéens d'écrire de manière anonyme pourquoi ils ont eu honte. Et donc, ils avaient la possibilité de participer ou pas, c'était pas obligatoire. Et donc, dans ces enveloppes, il y a les bristoles écrites par ces lycéens.
Quelle était la question précisément ?
C'était « De quoi avez-vous eu honte ?» Oui. Et je leur disais « J'en ferai peut-être un jour quelque chose. » Je leur parlais de tous les projets d'écriture collaborative que je fais. Et je leur avais dit « Le plus important, à mon sens, c'est d'écrire pourquoi on a eu honte et pas forcément de participer à un projet collectif. » Donc je leur avais indiqué « Sur l'enveloppe, vous pouvez m'écrire que vous ne voulez pas que j'utilise ces bristoles. » Et par exemple, sur une des enveloppes, il y a écrit en lettres capitales « À ne montrer à personne, gardez-le pour vous. »
Donc vous l'avez ouverte, vous l'avez lue.
Mais bien évidemment, je ne dirai jamais ce qu'il y a à l'intérieur.
Pourriez-vous nous en lire une autre alors s'il vous plaît ?
Donc je vais en prendre une au hasard, parce que j'en ai mis plusieurs sur la. Donc voilà une honte qui m'a été écrite de manière anonyme. J'ai un jour eu honte quand je rentrais chez moi. Devant moi se trouvaient des troisièmes. J'étais en sixième. Ce jour-là, le sol glissait et je suis tombé sur une plaque. Ils se sont retournés et ont rigolé, puis l'une d'entre eux a dit « Laissez-la, elle s'agenouille pour prier, tout en se moquant. » Et en fait, moi, je trouve ça très, très fort. J'ai l'impression que lorsqu'on écrit un traumatisme, et quelque part, les hontes, ce sont des micro-traumatismes, ça permet de reprendre possession sur sa honte, et tout d'un coup, la personne qui écrit sa honte devient la maîtresse du jeu. Et c'est ça qui m'intéresse.
Je me tourne vers la psychologue qui s'est penchée sur la honte. Que pensez-vous de cette initiative, Brigitte Kercher, de Mathieu Simonet ?
Ben, je trouve que c'est très intéressant, notamment parce qu'il a posé cette question à des lycéens. Mmh. Et c'est la période de l'adolescence, donc du remaniement psychique, où la question de la honte est forcément au premier plan, puisque c'est la grande séparation. Tout à l'heure, je parlais de la séparation mère-enfant, mais à l'adolescence, c'est là où on devient jeune adulte, qu'on va se séparer de sa famille. Après, là, les hontes qui sont décrites, c'est peut-être plus des hontes fugaces. Après une première structuration dont je parlais là tout à l'heure, de la honte structurante. Et effectivement, moi, je trouve ça très intéressant parce que chaque personne parle en jeu. C'est-à-dire là où ils ont été objets de l'autre, où on s'est moqué d'eux, ils reprennent finalement, ils se resubjectivent en parlant en jeu. Voilà ce qui m'est arrivé.
On pourrait s'imaginer que l'anecdote qui vient d'être racontée, celle qu'a lue Mathieu Simonet, n'est pas très grave, ça n'a l'air de rien. Mais ça n'est pas rien, Brigitte Kercher. Un ado qui ne veut pas que son parent vienne le chercher à l'école, par exemple, parce que c'est la honte. Comment accueillir cette situation de la part de l'adulte ? Comment faut-il aborder cette honte, à votre avis ?
Ben, c'est déjà l'accueillir. L'accueillir, c'est déjà quelque chose, c'est un peu ce que vous faites finalement, Mathieu Simonet, d'aller
mettre
accueillir,
des mots dessus.
Exactement, de mettre des mots et de ne pas censurer. Un petit peu ce dont vous parliez avec votre invité Hugo Lindenberg sur son magnifique livre
Un jour ce sera vide, roman prix du Livre Inter 2021.
Merci. Sur finalement autoriser toutes les émotions. Donc là, c'était de l'enfant, mais de l'adolescent aussi, de pouvoir parler de cette honte. Parce que finalement, c'est normal d'avoir honte que ses parents viennent le chercher à l'école, au lycée, ou parce que ça vient parler de cette première fusion du départ et la société rejette finalement les êtres qui sont pas bien différenciés.
Mathieu Simonet, quelles sont les réponses qui vous ont le plus marqué dans ces petites fiches ?
Bah, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on entend tout et son contraire. Il y a ceux qui disent qu'ils ont honte d'être gros, d'être mince, d'être blanc, d'être noir, d'être riche, d'être pauvre, d'être petit, d'être grande. Et en fait, quand on prend un peu de recul et quand on voit toutes ces hontes collectives, on se rend compte qu'il n'y a aucune raison objective d'avoir honte parce qu'on a honte de tout et de son contraire. Et donc ça, je pense que c'est l'élément dont j'avais pas forcément conscience avant de mettre en place ce projet et qui m'a énormément touché. Et après, je trouve que ce qui m'a marqué aussi, c'est la calligraphie qui raconte aussi beaucoup de choses.
Ah,
sur
par exemple.
Sur certains qui vont écrire sur un bout du Bristol comme s'ils avaient honte d'exister. Ceux qui vont faire des dessins en disant qu'ils ont dépassé leur honte et qu'on s'est moqué d'eux. Une fille qui explique qu'on s'est moqué d'elle parce qu'elle est grosse et elle dit que maintenant elle est fière d'être grosse. Il y en a une autre qui dit que... Et donc voilà, et elle écrit avec des grandes lettres.
On voit l'aplomb, on voit la honte, on voit l'aplomb, l'émotion dans la graphie, quoi, dans la manière dont les lettres sont écrites.
Il y a aussi une fille qui a écrit une première honte qui était relativement anodine, une troisième relativement anodine, et entre les deux, elle écrit une honte qu'elle raye, mais on arrive à lire, et elle dit « j'ai honte parce que ma mère ne m'aime pas ».
Et elle l'a rayé.
Et elle l'a rayé, mais en même temps, elle l'a rayé juste d'un trait. Et je trouve que tout ce travail sur la calligraphie est très beau. Et puis, ce qui m'a énormément touché, c'est la confiance. Enfin, il se trouve que quand j'ai proposé ça aux lycéens, pendant 2 heures, je leur ai expliqué pourquoi moi j'avais eu honte, pourquoi je pensais qu'il fallait faire de nos hontes des forces intimes et collectives et politiques. Je leur avais parlé de tous mes dispositifs d'écriture collaborative. Et je pense que parce que je m'étais livré, en retour, ils se sont livrés.
Peut-être un nouveau témoignage, une nouvelle enveloppe, Mathieu Simonet.
Alors j'en prends une autre enveloppe au hasard. J'ai honte de devoir me maquiller pour être ce à quoi je ressemble.
Anne-Sara Kertudo, vous intervenez également dans les collèges et lycées. Vous parlez aux enfants de la honte que vous avez ressentie quand vous aviez leur âge. Comment réagissent-ils en général et qu'est-ce que vous apporte à vous ces rencontres?
Alors eux, ils sont très très à l'écoute là-dessus. Moi, ce que je trouve très très important sur la question de la honte, et c'est pour ça que le projet de Mathieu est super, c'est que la honte, c'est quelque chose qui vous fait baisser les yeux, qui vous coule la bouche, qui vous fait sortir de la pièce. La vraie honte, on peut même pas en parler du sujet. On peut pas dire le mot. Moi, même le mot les yeux. Quand j'entendais le mot, simplement, j'étais pas bien, je rougissais, je voulais partir, je voulais sortir. Donc rien que d'écrire ça, de dire ces mots-là, c'est déjà un premier pas pour s'en libérer. Et c'est vraiment, la honte, c'est une histoire de tabou aussi. Donc de mettre des mots, alors en plus à l'écrit, je trouve que c'est une première démarche qui permet de s'en libérer. C'est ce que je dis aux enfants aussi quand je vais dans les écoles. De commencer à écrire, à dire des mots, juste à en confier ça. Moi, j'ai la première personne à qui j'ai parlé de tout ça, donc c'est Mathieu. Et le fait juste de voir que je pouvais prononcer ces mots-là, que quelqu'un pouvait les recevoir, que la terre se mettait pas à trembler, c'était déjà énorme.
Dans le documentaire que Mathieu Simonet vous a consacré, Anne-Sara Kertudo, en entrant votre fille, vous traitez de crâneuse, parce que vous faites le sourire de Marilyn Monroe. Il y a beaucoup de joie, hein, et une moquerie ô combien bienveillante dans ce mot. Est-ce que vous l'aimez, le mot crâneuse? Est-ce que vous êtes une crâneuse, Anne-Sara Kertudo?
Ah, la crâneuse, c'est le versant drôle de la fierté. Ouais, bien sûr, il faut être crâneuse, il faut être crâneur. Ouais, c'est très, très important.
C'est très important. Et vous avez besoin de vous le répéter? Ou c'est naturel désormais?
Je commence à être un peu moins embourbée dans ces questions quand même au bout de toutes ces années. Je commence à m'en libérer un peu, donc je commence à y mettre beaucoup plus de joie et de légèreté. Donc là où c'était vraiment très très immobilisant, empêchant, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est ce qui a fondé aussi ma conviction sur l'association de droit pluriel que je dirige, sur le combat pour l'égalité des droits, sur tout ce qu'on est en train de faire pour rendre la justice accessible à toutes les personnes en situation de handicap, pour toutes ces 12 millions de personnes dont on parle. Bon, pour tout ça, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est une force, c'est un moteur, c'est de la joie, c'est de l'énergie, c'est du plaisir, c'est tout ça aussi.
Des auditeurs nous écrivent sur le site de France Inter et deux d'entre eux proposent une explication à cette expression « toute honte bue ». Michel nous écrit « lorsqu'on a honte, on a envie de déglutir et d'avaler ses mots, ce qui revient à l'idée de boire ses mots. Devant une humiliation, écrit Philippe, la honte se traduit par des larmes. Quand la langue empêche les larmes de couler et quand il n'y a plus de traces de ces larmes, on s'autorise à reprendre la parole « toute honte bue ».
I just wanna hold you tonight, tonight.
C'était Céleste sur France Inter. Vous écoutez L'été comme jamais en direct jusqu'à 10h. Et nous parlons ce matin de la honte avec l'écrivain Mathieu Simonet, avec Brigitte Karcher, qui est maîtresse de conférences en psychologie clinique et psychopathologie, et avec Anne-Sara Kirtudo, qui dirige l'association Droit Pluriel, qui milite pour un accès à la justice des personnes en situation de handicap. Écoutons à présent le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Il a consacré un livre à la honte intitulé « Mourir de dire ».
Après un trauma, les gens ont honte, alors qu'ils n'ont aucune raison objective d'avoir honte. C'est un accident de la vie. L'exemple le plus flagrant, c'est les femmes agressées sexuellement qui vont peu au commissariat parce qu'elles ont honte d'avoir été agressées. Elles sont coupables de quoi ? De rien. Et pourtant, elles ont honte d'y aller parce qu'elles savent que, en parlant, en racontant ce qui leur est arrivé, elles vont planter dans l'âme de l'autre une représentation de soi dégradée. Il va comprendre que je suis humilié.
Il faut que la honte change de camp, répètent celles et ceux qui luttent contre les violences sexuelles, Brigitte Karcher. La honte se distingue de la culpabilité.
Oui, c'est-à-dire que la culpabilité, ça serait une faute par rapport aux valeurs qui sont inculquées, une transgression, alors que la honte, c'est bien plus coûteux dans le sens où finalement, c'est la personne qui est mauvaise, c'est l'être de la personne qui est touchée, qui est mauvais, indigne.
La culpabilité traverse-t-elle les réponses des lycéens et lycéennes auxquels vous avez posé cette question, Mathieu Simonet ? De quoi avez-vous honte ?
Oui, il y a un Bristol où un adolescent explique qu'il a honte parce qu'il a volé de l'argent à sa mère. Il lui a dit qu'il s'était fait racketter. Il explique que sa mère n'a pas d'argent, que le père est parti. Et là, on est dans une culpabilité, à mon sens, qui... Et donc oui, il y a certains Bristol sur lesquels on voit de la culpabilité. Et d'ailleurs, les lycéens m'avaient demandé au début, mais qu'est-ce que c'est la honte ? Et je leur avais dit, écrivez ce que vous voulez, et c'est pas grave si vous répondez à côté de la plaque.
Ils vous ont demandé ça ?
Oui, ils ont voulu, et je leur ai dit...
Ça vous a surpris, non ?
Oui, parce que moi-même, je savais pas forcément y répondre à cette question. Et je leur ai dit, l'important, c'est comme le sentiment amoureux, on sait pas très bien ce que c'est. Mais souvent, c'est lorsqu'on est amoureux la première fois qu'on ressent le sentiment amoureux. Et chacun, en fonction de son expérience, on va avoir des définitions différentes. Et je pense que pour la honte, c'est pareil. C'est
d'abord une expérience. Il faut l'avoir connu pour pouvoir dire ce que c'est. Ouais. Qu'allez-vous faire de tous ces papiers, Mathieu Simonet ? Est-ce un éloge de la honte ? Est-ce que ça va donner un livre ?
J'aimerais en faire un livre, justement, qui s'appellerait Éloge de la honte. Mmh. Et j'aimerais collaborer avec un dessinateur qui s'appelle Jérôme, et on a commencé à collaborer ensemble, et pour l'instant on écoute tout début du projet.
Anne-Sara Kirtudo, il vous fait mal ce titre, Éloge de la honte ?
Non, il ne fait pas mal.
Non, mais on disait tout à l'heure que entendre que la honte a du bon, c'est difficile pour vous, et on le comprend aisément.
Non, mais je sais que ce que Mathieu va mettre dedans, c'est justement, il libère là, donc éloge de la honte, parce qu'il va libérer à travers son travail, il va donner la parole à tous ces jeunes-là qui ont du mal à l'apprendre, qui ont du mal à dire, qui ont du mal à assumer. Donc le titre, je vous dirais, c'est moins important que ce qu'il en fait, ce qui va permettre avec ça, et c'est pour ça que je lui fais toute confiance.
Les mots, en l'occurrence, ne sont pas un détail. Quel est votre regard, Anne-Sara Kirtudo, sur la tendance aujourd'hui à dire « personne en situation de handicap » plutôt que « personne handicapée » ? Est-ce que vous dites, vous, par exemple, que vous êtes aveugle ou non-voyante ?
Moi, je dis ce que veulent dire les gens. J'ai pas de mots particuliers. Moi, j'ai juste un vrai souci avec le mot handicap. Je suis pas seule, et c'est même une démarche mondiale finalement. C'est-à-dire que le mot handicap tend à disparaître à l'étranger, là où en France on le garde, sans mesurer que c'est une injure en fait. Être handicapé, c'est une injure dans les cours d'école.
C'est donc une façon de perpétrer la honte, justement, d'employer ce mot handicap, à votre avis?
Oui, en tout cas, effectivement, handicapé, tout particulièrement, bien sûr, ça empêche d'être fier, comme tous les mots sur le handicap. Alors, dans les dictionnaires, le handicap est encore défini comme une infériorité. Donc, Droit Pluriel, mon association a fait une démarche pour justement demander au dictionnaire de changer ça, ce qui n'est pas encore terminé. Et puis, tous les mots sur le handicap invalident
être invalide, c'est pour un ticket de métro, c'est je le jette à la poubelle. Donc comment est-ce que je peux être fière en étant invalide? Une déficience, moi je peux pas me sentir déficiente. Je peux pas être bien et me sentir déficiente. Je me sens forcément moins bien que vous si je suis déficiente et que vous êtes efficiente.
Est-ce que on peut y voir une forme de déni des différences, Anne-Sara Kertudo?
On peut y voir une forme de domination surtout. Je pense vraiment que tout ça est une question politique et que on a mis à l'écart toute une catégorie de la population, enfin plusieurs catégories de population, mais notamment toutes ces personnes qui n'entendaient pas, qui ne voyaient pas, qui ne marchaient pas, etc. Parce que la norme est venue écraser tout ce qui ne lui ressemblait pas, et ça donnait effectivement une société très très normative, très impérative, qui fait que finalement la majorité se sent mal. Et que c'est ça qu'il faut renverser aujourd'hui, c'est dire que tous les corps, effectivement, tous les corps se valent, toutes les personnes ont une égalité de droit, une égalité de droit à être fier. Et c'est ça, enfin, le combat à mener aujourd'hui, c'est ça comme ça l'est sur l'homosexualité, sur toutes les minorités.
La honte est aussi un mot qui revient énormément chez les transfuges de classe, celles et ceux qui se sont extraits de leur milieu d'origine. Je pense évidemment à Annie Ernaux ou à Édouard Louis, pour ne citer qu'eux. La honte, c'est d'ailleurs le titre de l'un des romans d'Annie Ernaux. Qu'est-ce qui relie la honte de cette envergure à des toutes petites hontes quotidiennes, à votre avis, Mathieu Simonet?
Juste avant, peut-être pour rajouter quelque chose qu'a dit Anne-Sara, par rapport au dictionnaire, elle a obtenu que le petit Robert enlève le mot « infériorité » de la définition du handicap, ce qui était quand même une victoire sur les mots. La honte par rapport à
l'origine sociale.
À l'origine sociale, j'ai l'impression que c'est souvent sur des petits détails. Par exemple, quand on a honte d'une origine sociale, c'est dans un dîner ou sur une petite. C'est sur des petits détails qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas forcément les codes. Et c'est là où, de temps en temps, c'est comme si tout d'un coup il y avait un coup de projecteur sur nous, sur notre honte, et on est le seul à le voir. Et on a peur et on se demande si les autres voient le projecteur. Et tout d'un coup, on n'arrive plus à être concentré sur autre chose. Et c'est en ça que je trouve qu'il y a un lien entre les petites hontes du quotidien et une honte plus structurelle.
L'ambition d'Annie Ernaux n'est pas de dépasser cette honte, elle le dit clairement, mais d'en faire un enjeu d'écriture. Et ça rejoint votre démarche, Mathieu Simonet. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser, il s'agit d'en faire quelque chose de beau.
Oui, parce que je pense que lorsque on comprend que on a tous honte et que par nos hontes on est tous singuliers et on a plus d'empathie, par définition, on peut en faire quelque chose de beau. Et quand on a en plus une dimension collective, moi par exemple en publiant ces Bristol, ceux pour lesquels en tout cas les lycéens étaient d'accord sur les réseaux sociaux, ce qui me touche, c'est que des adultes sont touchés et sont fiers de ces jeunes parce qu'ils disent ce que eux auraient peut-être aimé dire lorsqu'ils étaient adolescents. Et tout d'un coup, ça devient une espèce de communauté très forte, et donc ça en fait quelque chose de beau. Et bon, enfin, moi, je suis à chaque fois bouleversé par les hontes collectives.
On parlait tout à l'heure des symptômes de la honte. On va écouter une auditrice qui nous a laissé une note vocale sur l'application France Inter.
Bonjour, je m'appelle Sylvie Brignan, je suis orthophoniste à Saint-Amour dans le Jura, et ce sentiment de honte, je le travaille beaucoup avec mes patients, notamment ceux qui sont porteurs d'un bégaiement, et voilà, parce qu'ils ont souvent honte de leur bégaiement. Et je leur dis que pour moi, on ne doit pas avoir honte de quelque chose dont on n'est pas responsable. Voilà, je trouve que c'est une clé, une réponse aussi, et un outil cognitif pour dépasser ce sentiment et le laisser de côté.
Ça semble évident, Brigitte Karcher, mais ça va mieux en le disant. Ne pas avoir honte de quelque chose dont on n'est pas responsable.
Oui, c'est bien de le dire, mais après, ce qui est compliqué, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est le ressenti. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, souvent les hontes, elles tiennent pas la route, c'est-à-dire qu'on dit mais la personne elle a pas à avoir honte de ça, mais il n'empêche que si on le ressent, il faut quand même s'en occuper, le prendre en charge. Voilà, moi je travaille plus avec la question du ressenti de la personne. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on ressent de la honte?
Comment travaillez-vous sur la honte que ressentent les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, puisque c'est votre champ d'étude, Brigitte Karcher?
Oui, pour dire deux mots par rapport aux troubles alimentaires, ce que j'avais travaillé dans mes recherches, c'est le fait que finalement les troubles alimentaires, c'est un avatar de la honte. C'est-à-dire que contrairement à ce que peuvent dire les patients au départ, en disant j'ai honte parce que je suis en surpoids ou en obésité, ben finalement, au bout d'un certain temps dans le travail, on se rend compte que la honte, c'est pas celle du surpoids, celle du social finalement, où ils disent je suis rejetée parce que je suis en surpoids, mais une honte plus profonde. Et justement, c'est avec cette fonction de la honte, du regard social, où finalement, en ayant honte, j'interpelle le regard de l'autre. Et comme je suis le point de mire d'un autre, ça veut dire que j'existe.
Le trouble alimentaire serait plutôt une conséquence de la honte qu'une cause
exactement,
de la honte.
Exactement.
Une question d'auditrice pour vous, Mathieu Simonet. Comment avez-vous fait pour gérer les écrits trop intimes et donc parfois dangereux?
Alors, il y a certains... Par exemple, il y a certains écrits où il y avait des éléments d'identification très forts, avec des dates, etc. Donc ça, je les publie pas, même si les personnes me disaient que je pouvais les publier. Après, il y a pas eu un moment donné où je me suis dit c'est gênant que la personne m'ait écrit cela. Je me suis toujours dit.
D'autant que ce n'est associé à aucun prénom ni nom.
Oui, voilà. Donc il y a que certains éléments, certaines fois où il y avait un élément d'identification où je me suis dit ça, il faut pas forcément le montrer. Voilà.
Il y a des consignes parfois, c'est amusant.
Parce qu'en fait, comme j'avais dit aux élèves qui pouvaient écrire que je ne devais pas montrer leur honte, certains en ont profité pour m'écrire des consignes auxquelles je n'avais pas pensé.
Par exemple,
pas ouvrir jamais. Donc je n'ouvrirai jamais cette enveloppe.
Vraiment donc, mais qu'est-ce que vous allez faire de ce truc?
Elle ne sera jamais ouverte, jamais. À ouvrir à l'heure du thé, ce que j'ai fait. À ouvrir après deux ou trois verres d'alcool, donc par rapport
vous
à tout ton but.
Vous l'avez fait aussi, elle est ouverte.
Je l'ai faite. Okay. Une que je n'ai pas encore ouverte, et qui est en lien avec ce dont on parlait peut-être tout à l'heure. À ouvrir au Portugal en mangeant du poulet.
Ah, c'est pas évident comme contrainte, ça.
Ouais, donc
c'est pas encore fait.
Je vais bientôt y aller. Il y en a une à brûler. Je ne sais pas si je dois brûler l'enveloppe avant de l'avoir ouverte. Est-ce que je peux l'ouvrir ou pas? Il y a des enjeux d'interprétation.
C'est écrit à brûler sur l'enveloppe, Mathieu Simonet.
Donc c'est plutôt l'enveloppe. Bon, voilà. Donc j'ai la réponse. À ouvrir dans 99 ans. Donc là, je vais faire mon testament pour qu'elle soit ouverte.
Non, vraiment? Vous le ferez?
Oui,
vraiment?
Oui. Oui. Donc, j'en ai une, c'est à ouvrir sur Mars en 2045. Donc je cherche des gens qui vont aller sur Mars, puisque ça va être possible.
Ça n'est pas rien, Anne-Sarah Gertudo, de mettre ainsi en scène la honte, de donner des indications, de la faire exister comme quelque chose presque d'amusant.
Oui, je crois que c'est ce qu'on dit depuis ce matin. Je crois qu'il faut en faire quelque chose. Et en faire quelque chose de créatif, c'est jouissif, en fait. Finalement, ça transforme du négatif en positif, en beau, parfois. Nous, on a fait, avec l'association Droit Pluriel, par exemple, une exposition photo pour, justement, mettre en scène. Alors, il s'agissait, pour le coup, de personnes qui portent des appareils auditifs. Porter des appareils auditifs, c'est plusieurs millions de personnes. Et pourtant, quand vous allez voir un audioprothésiste, la première chose qu'il vous dit, c'est vous inquiétez pas, on a des petits modèles, vous inquiétez pas, ça se verra pas. Donc il faut avoir honte de porter des appareils auditifs. Donc il faut avoir honte d'être sourd ou malentendant. Et on a fait une exposition pour dire que non, qu'au contraire, on est sourd, on est malentendant. Enfin, tout ça, c'est pas grave. Juste, il faut le montrer, il faut le dire, il faut l'assumer. C'est pas un souci. Et donc, on a une exposition qu'on fait circuler dans toutes les villes et qui va à l'étranger aussi, où on montre des portraits monumentaux photographiés par Stéphane Lavoué. Et c'est sur ces visages, on montre de manière très apparente des appareils auditifs ou des implants cochléaires. Mmh.
Et ça suscite, j'imagine, des réactions contrastées.
Mais on a des gens qui pleurent devant, déjà. On a des gens pleins qui nous écrivent en nous disant, dans toute la France, en nous disant, mais moi, je mets mes cheveux devant, je préfère ne pas entendre plutôt que de montrer que j'entends pas. Et ça m'aide, vos photos, là, ça m'a fait faire du chemin, ça me libère. Donc ça, c'est formidable, quoi.
Alors, on va poursuivre cette chaîne de libération de la honte. Mathieu Simonet, vous avez, je crois, un appel à lancer ce matin.
Oui, j'aimerais bien que les auditeurs auditrices qui le souhaitent m'envoient leur honte de manière anonyme sur une carte postale à mon adresse à mon adresse personnelle.
Pourquoi une carte postale?
Parce que
sur avec une consigne aussi.
Parce que sur une carte postale, bah déjà, je trouve ça très beau d'écrire des cartes postales. Ça reste totalement anonyme. Mmh. Et c'est il y a le côté léger de la carte postale et je trouve ça intéressant.
Gros bisous du Cap d'Agde et de l'autre côté.
Voilà.
Donc on a mis votre adresse postale personnelle sur le site de France Inter à la page de l'été comme jamais. Voilà. Remplissez la boîte aux lettres de Mathieu Simonet de toutes vos hontes. Y en a-t-il une dernière que vous souhaitiez citer, une honte qui vous a ému, fait rire, marqué, Mathieu Simonet?
Eh bien, j'essaie d'en ouvrir une autre.
Allez, au hasard. Laissons le hasard décider.
Un jour, j'ai dit « je te kiffe » à quelqu'un en pensant dire « je t'ai à l'œil ».
Magnifique lapsus. Oh mais c'est Étienne Dao qui s'avance. Duel au soleil, c'est l'été comme jamais sur France Inter. Toujours commencer sa journée avec Étienne Dao. Brigitte Karcher, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en psychologie clinique et vous avez vous aussi un petit appel à lancer ce matin, un appel à témoignage, je crois.
Oui, en ce moment, je travaille sur la souffrance des soignants, plus particulièrement la souffrance des internes. Et effectivement, on est en train de mettre en place une étude au CHU de Nice. Mais s'il y a d'autres soignants qui nous écoutent dans la France, si vous voulez m'envoyer un petit mail à...
Il y a de la matière sur voilà. Le sujet. Pareil, on mettra l'adresse mail à la page de L'été comme jamais sur le site de France Inter. L'émission approche de son terme. Et j'ai une dernière question à vous poser tous les trois. On a le droit de changer complètement de registre et de ne pas parler de la honte. J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. Anne-Sara Kertudo.
C'est moi qui commence.
Eh ouais, pas de bol. Hein.
C'est dur. Hein. moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit hier que je l'écoutais pas, que je l'écoutais pas assez. Alors, je me suis dit que j'allais l'écouter.
Vous avez changé d'avis là-dessus? Vous êtes d'accord avec lui? Vous ne l'écoutiez pas assez?
Ouais, mais de toute façon, s'il le dit, c'est son ressenti qui est important.
Mathieu Simonet, sur quoi avez-vous changé d'avis?
Moi, mon mari est mort il y a un an et demi, et je me disais qu'il fallait que je reste dans notre appartement, qui était un peu le socle, c'était quelque chose de solide. Et tout le monde me disait qu'il fallait que je déménage. Je pensais que les gens avaient tort et j'ai déménagé en octobre dernier et j'ai changé d'avis parce que je me suis rendu compte que ça m'avait mis en mouvement et que je vais beaucoup mieux depuis que j'ai déménagé.
Brigitte Karcher, sur quoi avez-vous changé d'avis?
Je suis quelqu'un qui doute beaucoup et ça m'a toujours beaucoup gênée. Et aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être un outillage pour faire face à l'incertitude. Donc, je le vis mieux.
Vive le doute! Voilà que la boucle est bouclée. C'est un éloge quotidien du doute qu'on fait avec cette question dans l'été comme jamais. Anne-Sara Kertudo, votre association qui se bat pour un accès aux personnes en situation de handicap à la justice s'appelle Droit au pluriel. Et on a mis, bien sûr, un lien à la page de l'émission. Mathieu Simonet, avant que ce projet sur la honte ne devienne un livre, on lit Anne-Sara K aux éditions du Seuil et puis Brigitte Karcher, votre thèse sur la honte et les troubles alimentaires étant disponible en ligne, je le signale, même chose, un lien sur notre site internet. Merci mille fois à tous les trois. Merci, bonne journée et à bientôt.
Merci.
Sur France Inter.